fait un petit moment que je vous avais pas vu. Quelques dimanches précédents où j'étais en déplacement, et je profite déjà pour vous transmettre les salutations fraternelles de l'Église évangélique libre de Guilherand-Grange dans la région de Valence, où j'étais en visite synodale il y a 2 semaines, et de l'Église évangélique libre de Corse qui se réunit à Porto Vecchio où j'étais dimanche dernier. Et aujourd'hui je suis ici. Pour un certain nombre de dimanches quand même encore, j'espère. En tout cas, j'aimerais partager avec vous la lecture d'un texte, d'une parabole, qui m'accompagne depuis quelques semaines. Vous savez, parfois, il y a certains textes qu'on oublie, qui passent inaperçus. Cette parabole, on la trouve seulement dans l'évangile selon Luc. Elle est propre à cet évangéliste. Et c'est une parabole qui récemment m'est apparue sous un jour nouveau. Et j'aimerais partager avec vous cette vision peut-être de cette parabole où il est question d'un figuier. Nous trouvons cette parabole dans l'évangile de Luc au chapitre 13 et les versets 6 à 9. Jésus disait aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint y chercher du fruit et n'en trouva pas. Alors il dit au vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le donc. Pourquoi occuperait-il la terre inutilement ?» Le vigneron lui répondit, « Maître, laisse-le encore cette année. Le temps que je creuse tout autour et que j'y mette du fumier, peut-être produira-t-il du fruit à l'avenir. Sinon, tu le couperas. » Cette parabole particulièrement se comprend différemment si on la relie à ce qui précède ou à ce qui suit dans l'évangile. Traditionnellement, on le lit plutôt à ce qui précède, l'épisode précédent où, à propos de certains malheurs arrivés dans la région de Galilée, notamment, ou la tour de Siloé, les disciples demandent en entretien avec Jésus pour savoir si c'est la faute à certains plus qu'à d'autres, s'ils ont péché plus que d'autres. Le genre d'interprétation que peut-être vous avez entendu d'ailleurs avec les événements récents, essayant de trouver des causes, des raisons, des explications spirituelles, des catastrophes, et Jésus disant, laissez de ça de côté, c'est pas ça qui compte, c'est de simplement vous, chacun de vous, de vous repentir, sinon vous risquez de finir comme eux. Et du coup, on interprète habituellement cette parabole ici du figuier comme une façon de mettre en garde, adressée au peuple d'Israël, qui serait derrière ce figuier, et qui serait prêt d'être coupé, et qui doit rapidement changer d'attitude, se repentir, sinon il sera coupé. Une parabole sur l'imminence du jugement, en quelque sorte. Mais je remarque que pratiquement jamais on ne lit cette parabole avec l'épisode qui suit immédiatement. Et là, on la voit, je pense, d'un regard, d'un œil un peu différent. Qu'est-ce qui se passe juste après? C'est un épisode où Jésus va prendre soin d'une femme infirme depuis des années. Bon, c'est un jour de sabbat, il va la guérir, ça va déplaire aux chefs religieux. Mais peu importe, ce qui est marquant dans l'épisode suivant, c'est que Jésus va prendre soin de cette femme infirme, que personne ne regardait finalement, qui occupait un petit peu la terre inutilement, qui n'était pas très utile, un peu comme le figuier. Et Jésus va prendre soin d'elle et va la guérir. Comme dans la parabole, le vigneron prend soin de ce figuier inutile pour qu'il puisse porter du fruit. Et si on rapporte cette parabole à cet épisode immédiatement après la parabole de Jésus, alors du coup, on voit cette parabole du figuier stérile d'un œil différent. Il y a une parabole dans ce cas qui va insister plus sur le délai d'attente, le délai de grâce supplémentaire offert par le vigneron que sur la perspective du jugement et de couper cet arbre. Dans la parabole, on comprend l'argument du maître de la vigne. Ça fait 3 ans qu'il vient chercher du fruit sur un figuier qu'il n'en trouve pas. Et on comprend son argument, il ne sert à rien ce figuier, on va le couper, il ne sert à rien. ce serait bien plus productif de planter un autre, et puis peut-être plus tard il va pouvoir porter du fruit. Mais dans la parabole, ce n'est pas la vie du vigneron. Le vigneron, lui, veut laisser encore une chance au figuier. Et il veut mettre dans la balance son implication à lui en disant je vais tout faire, je vais creuser tout autour, je vais mettre du fumier pour l'engrais et peut-être qu'enfin il va pouvoir porter du fruit ce figuier. Et c'est bien finalement ce qui semble se passer. Mais ce qui m'intéresse ici, ce qui peut nous intéresser me semble-t-il, c'est les deux logiques qui s'affrontent entre le vigneron et le maître de la vigne. La logique du maître de la vigne, c'est une logique de productivité. Et la logique du vigneron, c'est une logique de grâce et de patience. Lequel des deux, d'après vous, devons-nous suivre l'exemple ? Il me semble évidemment que c'est l'exemple du vigneron. Et cette parabole qui met le vigneron en exemple peut nous amener à souligner les dangers de la productivité. Qui s'exprime, cette productivité, cette logique s'exprime par cette parole cinglante du maître de la vigne. Pourquoi occuperait-il la terre inutilement ? L'argument, il tient la route d'un point de vue agricole, entre guillemets. Mais ce n'est plus le cas si on considère cette parabole dans la perspective du royaume de Dieu. Parce que, ici, ne nous y trompons pas, Jésus ne veut pas essayer de donner un enseignement sur la façon de gérer une vigne. Ce n'est pas l'objet de sa parabole. Une parabole est toujours racontée pour enseigner une vérité spirituelle. Et Jésus, ici, en parlant de vigne et de figuier, il parle du royaume de Dieu. Et il veut montrer qu'il y a deux logiques qui peuvent s'opposer dans la façon d'appréhender le royaume de Dieu, dont l'Église est appelée à être un des reflets ici-bas. Il y a la logique de productivité et la logique de la grâce. C'est pour ça que dans la parabole, le vigneron, s'oppose au maître de la vigne. Pourquoi occuperait-il la terre inutilement ? Est-ce qu'il nous arrive jamais de penser, pas forcément de dire, mais de penser quand même, que telle ou telle personne occupe un peu la place inutilement, qui ne sert pas à grand-chose dans l'Église ? On ferait mieux de le couper. J'ai dit penser, hein, je n'osais pas le dire peut-être. Mais... En tout cas, ou qu'on se dit, mais ça c'est vraiment celui-là, mais il ne va jamais porter de fruits pour le Seigneur, ce n'est pas possible. Et on va se dire, mais qu'on mette quelqu'un d'autre à sa place, qui sera plus efficace, plus productif, ça marchera mieux. Le vigneron, ici, dans cette parabole, laisse encore une chance à ce figuier. 3 ans. 3 ans que le maître de la vigne vient chercher du fruit, et 3 ans qu'il n'en trouve pas. Et le vigneron dit, laissons-lui encore une chance. Et on va tout faire pour qu'il puisse porter du fruit. Le royaume de Dieu n'est pas une entreprise commerciale. Une église, ça ne se gère pas comme une entreprise. Et pourtant, nous vivons, c'est pas un scoop, dans une société occidentale, capitaliste, basée sur l'économie de marché, ce qui veut dire que facilement, on appréhende aussi l'église avec des termes, avec une façon de voir inspirée par le modèle dans lequel nous vivons. Est-ce qu'on ne parle pas souvent en termes de croissance, d'efficacité, productivité, les termes de marketing pour parler de l'Église ? Et je ne suis pas sûr que ce soit la bonne façon de mesurer la vitalité d'une Église. Parce qu'on risque peut-être de recevoir finalement le même jugement qu'une des églises, une des 7 églises de l'Apocalypse, l'église de Laodicée, qui se croyait riche, se croyait belle, forte et en bonne santé. Alors qu'aux yeux du Seigneur, elle était pauvre et misérable. Et si cette parabole nous invitait à considérer la vitalité du royaume, la vitalité d'une église, pas simplement à sa croissance et à sa productivité, mais aussi à sa capacité à prendre soin de ceux qui peinent à porter du fruit, comme le vigneron de la parabole. Parce que ce vigneron ici nous donne une leçon de patience. Une patience qui s'exprime par cette phrase simplement « Peut-être finira-t-il par porter du fruit ?» La patience, c'est une vertu essentielle du royaume de Dieu. C'est un des attributs centraux de Dieu dans la Bible, dans l'Ancien Testament, lent à la colère. Lent à la colère, la patience de Dieu. Une des qualités essentielles qu'on trouve dans la liste du fruit de l'esprit, aux côtés de l'amour, de la joie, de la paix, il y a la patience. La patience est une vertu de Dieu, une vertu que nous sommes appelés à vivre aussi en tant qu'enfants de Dieu. Mais quelle patience ? Pas une patience subie et passive, mais une patience choisie, active, comme le vigneron de la parabole, qui n'est pas, il ne dit pas « on va encore laisser une année, puis on verra si ça viendra tout seul, le fruit ». Non. Laissons encore une chance au figuier, et pour que ça puisse produire du fruit, je vais creuser tout autour. Je vais mettre de l'engrais. Patientons activement. Et si on veut appliquer cette exhortation peut-être à l'Église, à nos relations dans l'Église, il ne s'agit pas simplement d'être patient en supportant les autres, en soupirant. C'est une forme de patience. Mais de faire preuve de patience les uns envers les autres dans une relation d'aide, d'écoute, de pardon. Une relation active, une patience active les uns envers les autres, et non pas une simple patience passive en attendant que ça passe. Cette parabole ne nous invite-t-elle pas à changer de perspective ? La logique de productivité, elle coupe, elle retranche. La logique de la grâce, elle patiente, elle donne une nouvelle chance. Selon quelle perspective est-ce que nous envisageons nos relations dans l'Église ? Quelle est notre perspective pour notre Église ? On l'a dit tout à l'heure dans le rapport moral, qu'on est dans une réflexion sur l'avenir de notre Église. Mais selon quelle perspective voulons-nous avancer ensemble ? Est-ce que nous visons simplement avoir plus de productivité, plus d'efficacité pour améliorer nos statistiques, avoir un peu plus de membres ? À augmenter notre chiffre d'affaires, avoir un meilleur rendement, au risque de couper, de retrancher ce qui semble inutile, ou est-ce que nous voulons plus de patience, plus de grâce, en laissant le temps à chacun de porter du fruit ? Il me semble évidemment que cette parabole nous invite plutôt à la deuxième voie. Et à la lumière de cette parabole, simplement pour conclure, reposons-nous cette question. Et si la vitalité d'une Église se mesurait à sa capacité à prendre soin de ceux qui peinent à porter du fruit ? Même si dans la parabole, c'est seulement le vigneron seul qui prend soin du figuier, dans l'Église, je crois que c'est à nous tous de prendre soin les uns des autres. Pas seulement le pasteur, pas seulement les membres de l'Église, pas seulement ceux qui seraient investis d'un ministère de visite et d'accompagnement, mais tous, les uns et les autres. Nous sommes tous appelés à être des vignerons pour notre frère, pour notre sœur, faisant preuve de patience, de bienveillance. Et finalement, c'est en prenant soin les uns des autres, à l'exemple du vigneron de cette parabole, que tous et ensemble, nous pourrons porter du fruit à la gloire du Seigneur. Amen.